Bonsoir à tous. Donc, merci d'être venus si nombreux pour cette dernière date de cette programmation associée à l'exposition Jean et Schnauz. Alors, vous avez vu qu'on est merveilleusement bien placé puisqu'on est juste à côté de l'exposition. Elle se termine le 5 mars, alors courez-y si vous n'y avez pas encore été. Et j'ai le plaisir ce soir de recevoir, alors je me mets un peu à sa hauteur, Gérard Berthaumieux, merci Gérard, qui est le conseiller scientifique de cette exposition. Professeur de langue et littérature française en Sorbonne, c'est ça, on dit en Sorbonne, et qui est un spécialiste de Jean et Schnauz et qui nous fait le plaisir ce soir de donner une masterclass autour des figures de style de Jean et Schnauz. Et normalement, vous avez tous eu l'exemplier, voilà, et je vais laisser la parole, ou sinon, si vous avez la gentillesse peut-être de suivre à deux et d'en donner un autour de vous à vos camarades, ce serait très gentil. Donc je laisse la parole à Gérard pour cette heure en sa compagnie autour du style de Jean et Schnauz. Et ensuite, on imaginera un petit débat avec lui. On va profiter du fait qu'il soit là. Je vous ferai passer le micro pour une heure de débat avec toi. Oui. Merci à tous.
S'il y a des questions. Vous m'entendez? Comme ça, vous m'entendez aussi, au moins? Oui, bon. Je n'aime pas parler avec un micro, c'est pour ça. Bon, alors, en principe, une masterclass consiste à faire plancher des élèves et à leur donner des conseils. Alors, je ne vais pas vous faire ce coup en vache. Hein, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez des figures de style pour passer par derrière. Je vais en parler moi-même. Simplement, alors, je vais battre ma coulpe pour commencer. Ça la fout mal. Mais j'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur et, comme je disais à Caroline, j'ai pris mes désirs pour des réalités. J'ai des habitudes universitaires. J'avais prévu une séquence de 2 heures au total. Et l'exemplier que j'ai fait correspond à un exposé donc très long. Je n'aurai pas le temps, hein, c'est impossible. Donc j'ai pensé à une solution de repli. Voici ce que je vous propose. Hein. Je vais vous proposer un parcours cavalier sur l'ensemble du dossier en vous expliquant quelle année le parcours et quelles en sont les étapes. De telle manière, vous le verrez, le plan est très précis, les rubriques sont assez bien différenciées, de telle manière que vous puissiez, si cela vous intéresse, poursuivre l'étude et la réflexion à partir de ces très nombreux exemples vous-même. Et moi, je m'en tiendrai après ce parcours cavalier au développement d'un aspect qui me semble un des plus saillants chez Schnauz, hein, qui correspond au roman moderne et dont on a un peu parlé pour la journée d'études, c'est la figure de la métalepse, ce qu'on appelle la métalepse narrative, dont je vous donnerai un peu plus de détails tout à l'heure. Alors, c'est très libre, je prévois des débats et des questions après, mais si vraiment quelque chose vous démange ou si vous n'avez pas compris quelque chose, interrompez-moi et je vous répondrai sur l'instant, hein, tout de suite. Y a-t-il des questions déjà ou pas? Pas de questions? Bon. Alors, donc, figure de style dans Schnauz. J'avais prévu deux volets sous le titre général que vous avez page 1, les figures et le principe d'exubérance. La notion d'exubérance sur laquelle je reviendrai tout à l'heure me semble définir un ordre de la figure chez Schnauz, c'est-à-dire un principe explicatif constant, même s'il est variable au fur et à mesure de la publication des œuvres. Je définirai ce terme tout à l'heure. Alors, sous ce titre général, j'avais prévu deux volets. Le premier s'intitule, page 1, c'est le 1, figure et séduction de l'écriture, ce qui vous donne déjà une idée de la fonction de ce que peut être l'exploitation pléthorique des figures dans la prose des Schnauz. C'est un instrument de séduction pour lui-même autant que pour son lecteur. Alors, sous ce premier élément, j'avais prévu, c'est indispensable, pour ceux qui ne seraient pas particulièrement informés, de vous donner un descriptif de la nomenclature des figures. Qu'est-ce que l'on appelle une figure? Comment sont-elles définies et répertoriées? Ça, je ne pourrais pas le voir en détail, mais vous verrez que vous avez la quadripartition traditionnelle entre ce que l'on appelle les figures de diction, les figures de construction, les figures de mots et les figures de pensée. Alors, je vous rassure, lorsque nous trouverons des exemples de figures tout à l'heure, je vous préciserai à quelle catégorie cela appartient. Je ne pourrai pas, hélas, voir le détail. Alors, le deuxième volet, c'est là où je puiserai le paragraphe est développé. Le deuxième volet, vous l'avez, page 3. Il est sous le deuxième banc. Alors, c'est ça qui m'a intéressé. Je voulais pousser un petit peu plus avant la notion de figure, la présenter de manière un petit peu moins formelle, en utilisant une des formules clés en la matière. C'est une formule qu'on doit à Victor Hugo. Vous connaissez peut-être la sentence. Victor Hugo disait « Le style, c'est le fond du sujet ramené à la surface ». Et la vertu d'une figure de style, effectivement, le mot « figure » d'ailleurs le dit bien, c'est de rendre l'argument d'une œuvre visible dans l'écriture. Pas simplement lisible, mais visible et tangible dans l'écriture. Autrement dit, lorsque vous avez répertorié tel ou tel type de figure, il faut aller au-delà chez un écrivain et vous demander de quel aspect de son imaginaire c'est exactement la figure, c'est-à-dire la représentation symbolique. Et si vous creusez le texte d'Eschenoz, eh bien, je ne prétends pas que la liste est exhaustive, elle est forcément peut-être personnelle, mais ce sont quand même des domaines saillants. Je vois quatre directions, et qui sont des aimants sûrs quand vous lirez le texte d'Eschenoz. Le premier, Paul, qui va faire apparaître des figures, c'est ce que j'ai appelé page 3, c'est le 2-1, les figures de l'appariement improbable, avec exemple célébrissime qui a été un des piliers de l'exposition, l'attelage dit encore le zeugme, c'est-à-dire la coordination anormale. Il y a quelque chose de constant chez Eschenoz sous cet angle, on le verra tout à l'heure. Le deuxième pôle, alors vous allez un petit peu plus bas, page de la 3, c'est 2-2, c'est les figures du libre enjambement. Alors, qui est en quelque sorte l'appariement étonnant, mais de manière dynamique et plus statique. Alors, ces figures de l'enjambement, imprévisibles, bizarres, portent un nom générique, c'est la métalepse, et c'est ce que je développerai tout à l'heure devant vous, avec un panel d'exemples extrêmement variés. Le troisième pôle, vous l'avez page 4, non, page 5, pardon, excusez-moi. Alors, c'est, en détail, ce que j'ai choisi comme titre général, c'est-à-dire c'est les figures par exubérance, hein, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, parce que je vais les définir d'entrée. Et enfin, le quatrième pôle, alors ça c'est un peu bizarre, puisque c'est en quelque sorte un peu l'antithèse de l'exubérance, c'est ce que j'ai appelé les figures par diminution. Il ne vous a pas échappé, si vous êtes un lecteur d'Eschenoz, que plus on avance dans l'œuvre, exception faite d'envoyé spécial qui est un cas, plus les œuvres se raccourcissent, plus le style est économe de ses moyens, plus la manière est sobre. Et plus est cultivé le thème du diminué, du sans valeur, du petit, du je crois pas en moi, du ça sert à rien, etc., etc., etc. Donc ces figures de diminution ont une signification très complexe et elles sont un peu le contrepoint de l'exubérance, qui est au contraire une forme d'excès, ce qui ne veut pas dire, alors là, bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer, ce qui ne veut pas dire qu'à la fin de l'œuvre d'Eschenoz, dans les dernières œuvres, il n'y ait pas une forme d'exubérance. Mais c'est une forme d'exubérance qui, justement, est couplée avec la diminution. Et ce que je pourrais appeler, je vous en donnerai un exemple, c'est une forme d'exubérance sèche. Alors que l'exubérance est luxueuse dans les premières œuvres, elle est prolifique, n'est-ce pas ? On le verra peut-être tout à l'heure. Donc voici pour le parcours général. Vous verrez que sous toutes ces rubriques, j'ai classé des exemples qui devraient être, me semble-t-il, assez parlants. Alors je reviens au départ maintenant. Je reviens sur l'exubérance. Alors d'abord, le monde n'est pas de moi, bien sûr. Hein, bon, il est d'un rhéteur, alors très célèbre, vous le connaissez peut-être de nom, son manuel a traversé les classes de tout le XIXe siècle. Et il a été remis en honneur par un très grand poéticien d'aujourd'hui, qui est Gérard Genette, que vous connaissez. Et ce rhéteur, c'était Pierre Fontanier. Pierre Fontanier a écrit au début du XIXe siècle un volume de rhétorique, de figurologie plutôt, qui s'appelle « Les figures du discours ». Et il a isolé une catégorie dont la rhétorique ultérieure a eu le tort de ne plus jamais traiter. On a complètement oublié la rubrique. C'est ce qu'il appelle les figures par exubérance. Et dans ces figures par exubérance, il classe deux exemples formels. Il dit que ça tient essentiellement à l'énumération, à l'accumulation, à la multiplication des mots adjacents, les épithètes, les synonymes, etc. Autrement dit, c'est une forme d'écriture prolifique. Alors, ce qui est intéressant dans l'exubérance, on voit que Fontanier le sent, mais il ne le définit pas très très bien. C'est qu'il oublie dans l'exubérance ce qu'on appellera un sème, c'est-à-dire un trait définitoire. Qu'est-ce que c'est que l'exubérance ? Il faut au moins trois traits définitoires pour savoir ce que c'est. L'exubérance, c'est d'abord l'abondance. Pour nous, c'est quelque chose qui est prolifique et excessif. Il y a un deuxième trait qui est plus simplement l'abondance, laquelle est purement statique, c'est l'entrain. On ne peut pas penser l'exubérance sans une forme de vitalité, et de vitalité perpétuellement ressourcée. Et s'il y a bien une prose qui donne l'impression de vitalité, d'entrain et de dynamisme, c'est bien celle des Chenoz, vous en conviendrez. Et troisièmement, le troisième trait, on y pense moins, à toute exubérance est attachée la forme de, une forme de fantaisie, d'imprévisibilité et de fantaisie. Et c'est d'ailleurs en littérature inévitable. Et tous les écrivains qui pratiquent l'accumulation et l'énumération le savent. Rien n'est plus lassant, plus monotone et plus répétitif qu'une énumération, une accumulation. Autrement dit, l'exubérance risque de mourir d'elle-même, elle risque de mourir sous le tas de son accumulation. Donc les écrivains, si vous connaissez un peu Giono, si vous connaissez Bernanos, si vous connaissez les écrivains prolifiques, ils le font tous. L'écrivain nécessairement cherche quelque chose pour alléger la lourdeur de la répétition, et il va travailler la fantaisie et l'imprévisibilité. Donc ce trait d'imprévisibilité est essentiel à l'exubérance. Eh bien, les figures par exubérance, ce sont ces trois choses, et essentiellement. Et on s'aperçoit que le principe d'exubérance est même généralement attaché à la figure. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant qu'une figure ? Alors, pas besoin de vous dire qu'on pourrait y passer la journée hein, sur la définition de la figure. Ça fait des siècles qu'on essaie de la définir. Alors, j'ai tout bêtement mis regarder la définition de Wikipédia, qui en vaut bien une autre, hein, en vous disant, bon, vous allez pouvoir vérifier. Vous trouvez ceci, procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière aux propos. Alors, ce qui est certain, hein, ce dont on est sûr, c'est qu'on peut opposer, vous le savez, une grammaire de l'expression à une grammaire de l'expressivité. Une grammaire de l'expression est celle qui est dominée par ce qu'on appelle la fonction référentielle du langage, qui doit vous adresser au sujet dont vous parlez de manière absolument directe et lisible. Autrement dit, c'est l'emploi d'un langage relativement neutre. Mais à la fonction référentielle va pouvoir s'ajouter une fonction, comme on l'a dit, parfois poétique, parfois rhétorique, parfois stylistique, qui attire l'attention non pas simplement sur l'adresse à ce dont vous parlez, mais sur la forme même du message. Non pas qu'elle oublie de faire référence à quelque chose, mais elle cherche une forme plus vraie, plus vivante, plus directe de référence, et elle cherche donc un maximum d'expressivité. Eh bien, essentiellement, l'expressivité, alors dans quel terme on va le voir, est ce qui définit la figure. Alors en gros, en fait c'est très simple, la figure de style est ce qui représente, et c'est le serpent de mer à travers l'histoire, c'est ce qui représente à date très régulière la résurgence de ce que l'on appelle le cratilisme. C'est-à-dire l'idée, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le cratilisme, hein, vous... Alors, très rapidement, ça vient des dialogues de Platon, le cratyle, c'est l'idée, alors aujourd'hui battue en prêche, n'est-ce pas, que le mot est à la ressemblance de la chose à l'origine, hein, alors que nous savons bien entendu que le langage est arbitraire et que nos mots sont des étiquettes conventionnelles. Vous connaissez la formule de Claude Simon, le mot chien ne mord pas. Voilà, il a tout dit, n'est-ce pas, le mot est arbitraire. Eh bien, la figure de style, qu'est-ce que c'est ? C'est l'illusion qu'on peut, avec un langage qui est pourtant abstrait et arbitraire, donner quelque chose dans la langue de la présence de ce dont on parle. L'illusion d'une présence et d'une présence concrète de l'objet qui est visé. Donc effectivement, c'est un élément essentiel de cratilisme. Alors, évidemment, toutes les figures n'illustrent pas l'illusion donner à voir ou à percevoir l'objet dont on parle. La figure qui le fait le mieux, celle où les poètes se sont épuisés en trouvailles, c'est bien entendu celle dont on a souvent dit qu'elle donnait à voir, c'est la métaphore, bien entendu. La métaphore, en principe, surtout en poésie, donne à voir. Alors, je vous ai mis en exergue, en épigraphe, un tableau avec la référence, et je vous ai mis dessous un vers de Tardieu qui comporte une métaphore. « Ils viennent les grands chevaux de la mer », et vous avez en face le tableau qui représente effectivement cette déferlante sous forme de chevaux. Eh bien, ce que vise la métaphore en principe, au départ, c'est à donner à voir une telle impression avec uniquement des mots. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas que ce soit la dimension la plus importante chez Eschenoz. Ce qui va jouer chez lui, avant tout, c'est l'aspect ludique du travail sur la figure, et vous allez le voir. Mais attention, il ne serait pas écrivain s'il n'était pas quelque part démangé par cette idée du cratilisme et de la motivation du mot. Il y en a un exemple extraordinaire dans son œuvre. Je ne vous dis pas qu'il y croit, c'est un jeu. Mais il n'en reste pas moins qu'il en parle. C'est le nom de Zatopek. Vous avez ce qu'il dit, ça fait zzz comme un moteur. Et puis après, Émile, tout doux, c'est la burette qu'on vous sert avec l'huile. Eh bien, vous avez des écrivains, Claudel avait le mot locomotive, et pareil. Il dit locomotive, regardez, le L c'est la cheminée, les deux O c'est les roues, etc. Il fait exactement la même chose. Il y a l'illusion cratilienne qui les habite. Donc, même chez Eschenoz, n'est-ce pas, cette idée est présente. Ce n'est pourtant pas sans doute sa principale vertu, mais bon, il faut en tenir compte. Alors, regardez, un exemple pour illustrer la définition que je viens de vous donner. Et alors, je crois que si vous n'aviez à retenir qu'une chose de la conférence de ce soir, ce serait celle-là. Cessez de croire qu'une figure de style, je vous ai dit, c'est ce qui rend visible, c'est ce qui rend palpable, tangible. Ce n'est pas pour autant ce qui se voit. Les figures de style peuvent être extrêmement secrètes et vous n'avez pas conscience de la cheville ouvrière, de l'effet que vous ressentez. Mais pourtant, si vous y regardez de près, c'est ça. Et la figure peut aller se loger dans la plus petite menue monnaie du langage. Je vais vous en donner l'exemple à l'instant. Alors, regardez l'exemple 1, celui que j'avais choisi pour illustrer la définition. À la place de la biscuiterie, on fit s'élever une petite résidence au goût de l'époque, avec une pelouse intérieure mal rasée, sur quoi donner de plein pied un rang de studio. Paul contempla la pelade gazonnée par la porte-fenêtre. Alors, la pelade gazonnée, certes, ça se voit. C'est préparé, vous l'avez vu avant, par la pelouse mal rasée. Et la pelade gazonnée consiste d'abord... Alors, il y a plusieurs figures qui s'ajoutent. À inverser, bien entendu, ce n'est pas gazon pelé, c'est pelade gazonnée. À faire une métaphore, pelade s'applique normalement, non pas à un terrain, mais vous le savez, à une tête qui a perdu ses cheveux, d'où l'aspect évidemment cocasse. Et le paradoxe, parce que forcément, quand quelqu'un a de la pelade, il n'a plus rien, et on ne peut pas dire qu'il est gazonné, parce que le gazon, ça suppose quelque chose, voyez. Donc il y a une cascade de figures plus ou moins secrètes. Mais dans l'histoire, ce n'est pas ça le plus important. Qu'est-ce que c'est que le plus important ? Regardez bien. Il y a quelque chose dans l'écriture. Et donc ça, il y a ici un professeur de la Sorbonne qui sait à quel point j'ai travaillé ça. Ça m'intrigue énormément. Je l'ai beaucoup travaillé. Je relis. Avec une pelouse intérieure mal rasée, sur quoi donner de plein pied un rang de... Sur quoi ? Jamais vous n'écriez sur quoi ? Le français, après un antécédent nominal, dirait « sur laquelle ». Or, vous devez savoir que depuis un siècle et demi, la littérature a retrouvé cet usage ancien, il était vivant dans la langue classique, qui consiste à représenter un nom marqué en genre et en nombre par un pronom neutre. Alors regardez, quelle est la différence entre une pelouse mal rasée sur laquelle et une pelouse mal rasée sur quoi ? C'est très simple. Si vous dites « sur laquelle », vous renvoyez avec un pronom qui a les marques de genre et de nombre du nom. Vous renvoyez au nom même. Autrement dit, vous stipulez que ce qui est visé par pelouse correspond effectivement à ce que veut dire pelouse. C'est ce qu'on appelle une anaphore, une représentation fidèle. Une pelouse et une pelouse. Point. Mais que fait le pronom quoi ? Le pronom quoi, il efface les marques de genre et de nombre. Autrement dit, il touche à quoi ? Il touche à l'identité du nom. Et à partir de ce moment-là, il vous suggère qu'en réalité, ce que l'on vise ne peut pas être pleinement désigné par le mot pelouse. Autrement dit, le pronom neutre est quoi ? Le pronom neutre est un premier soutien de la figure. C'est un premier soutien de la figure parce qu'il appelle une autre désignation et par parenthèse, une désignation à ce moment-là qui sera plus sentie comme un écart, mais qui sera sentie, nous y revoilà, comme une manière de donner plus forte présence à cet objet mystérieux que vous voulez donner. Me suis-je fait comprendre ? Voilà. Et regardez, ce qui est surprenant, c'est qu'il suffit, quand vous avez fait attention, il suffit que vous ayez le pronom quoi sans autre figure de mot ou autre pour que vous soyez sensible à une forme de désaccord entre le mot et la référence, donc à une figure en creux. Regardez au-dessous. Derrière lui s'étendait une longue table, derrière quoi ? Et pas derrière laquelle, derrière quoi Schwendel. Autrement dit, cette table, ce n'est pas simplement une table, c'est déjà autre chose qu'une table. Bonjour la figure, elle est là. Elle est là en creux. Donc faites bien attention, et alors vous n'imaginez pas, si vous faites attention, il y en a un par page hein, de quoi chez Eschnoz. Il y en a une pléthore. On comprend pourquoi, bien entendu. Bon, lui qui est tellement sensible à l'incongruité des choses, on comprend qu'il l'utilise. Voilà, alors j'espère qu'avec ces outils, vous pourrez balayer tous les exemples. On va, si vous voulez, maintenant passer alors, à ce que je voulais développer plus particulièrement, à la métalepse. Hein. Donc je prends page 3, le fond du sujet ramené à la surface. Alors, j'ai mis à... d'entrée donc, les figures de l'appariement improbable. Vous savez, si vous avez vu l'exposition, que j'ai beaucoup insisté, nous avons beaucoup insisté sur ce point, c'est une matrice incontestable hein, de l'œuvre de Eschnoz. Chez Eschnoz, tout va par deux. Hein. Il travaille essentiellement l'appariement bizarre et improbable, le contraste. Alors, je vous dis juste un exemple. Regardez, je prends le 32B. Il est dit « Ravel a le format d'un jockey ». Donc, alors vous apprécierez le « donc », ça je n'ai pas le temps de passer. « Donc » de William Faulkner, pourquoi lui non. Qui, au même instant, alors il rapproche de choses qui ne pourraient pas être rapprochées, ils sont très loin l'un de l'autre, hein, partage sa vie entre deux villes, Oxford, Mississippi et la Nouvelle-Orléans, deux livres, Mosquitoes et Sartoris, et deux whisky, Jack Daniels et Jack Daniels, ce qui veut dire qu'il est bien ivrogne. Eh bien, vous voyez, tout va par deux et tout est fait de cocasserie parce qu'on accouple des choses qui, normalement, n'ont pas à être accouplées. Et ça, c'est une matrice absolument constante d'Eschnoz. Je l'ai vu douter que cette matrice soit constante. Il dit, en fait, ça correspond à une époque de ma création dans l'équipe Malaise où un des personnages dit, effectivement, tout ira par deux. Je puis vous assurer que jusqu'au bout, le schéma reste absolument constant. Il l'a fait varier, mais il reste jusqu'au bout. Il est là, présent incontestablement. Et c'est un ferment d'écriture qui ne cesse pas. Alors, ce que je vais voir sous le nom de « enjambement » maintenant, figure du libre enjambement, c'est effectivement ça. C'est un appariement cocasse, inattendu, mais sous une forme dynamique. Et alors, j'ai mis comme sous-titre « Métalepse et glissements analogues ». Alors, un mot sur métalepse. Dans la rhétorique traditionnelle, la métalepse, c'est une forme de métonymie qui consiste à donner l'antécédent pour le conséquent ou l'inverse. Autrement dit, vous allez dire, c'est l'exemple qui est toujours donné, « Elle a vécu Myrto, la jeune Tarentine, elle a vécu pour « Elle est morte ». Donc, on désigne la mort par la période précédente, c'est-à-dire par la vie. Alors, métalepse veut dire simplement l'eps, c'est le même radical que l'apsus, hein, le fait de glisser. C'est métalep, c'est glisser, méta à côté. Alors effectivement, on passe du concédant à l'antécédent ou inversement. Alors avec ce même sens, la possibilité de glisser à côté, autrement dit d'enjamber une distance ou un écart, le mot métalep a été récupéré par la narratologie. Et on doit... encore une fois, décidément, à Gérard Genette, hein, d'avoir donné le nom de métalepse à une série de figures particulièrement représentatives de l'écriture du roman contemporain, qui est une forme de saut inattendu d'un niveau à un autre. Alors, au départ, je vous donne juste un exemple pour fixer les idées, n'est-ce pas ? Bon, vous avez tous lu Astérix, hein ? Bon, vous savez qu'on voit quelquefois le petit soldat gaulois s'accrocher non pas à un mur représenté à l'intérieur de la vignette. Ce serait normal qu'il s'appuie à un mur représenté dans la vignette, donc dans l'histoire. Non, Astérix s'appuie sur le bandeau blanc qui sépare les deux vignettes, comme si ce bandeau était en réalité un mur. Autrement dit, c'est un débordement de la fiction sur l'acte et les outils de la narration. Alors attention, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là lors de la journée d'études, la chose a fait débat, hein. On s'est emparé de la métalèche pour y voir un instrument de la modernité et pour y voir le symbole de la déconstruction de la fiction. Autrement dit, c'est une manière de tuer le fictionnel, le personnage et tout ce qui s'ensuit. Là, j'ai posé moi-même la question à Eschnoz lors de l'entretien, il n'est pas d'accord. Pour lui, ce type de glissement, c'est un moyen de multiplier par deux les pouvoirs de la fiction, puisque la fiction est en train d'avaler sa diction. La fiction est en train d'absorber sa propre narration. Autrement dit, vous illimitez à ce moment-là l'horizon de la fiction. Et ça vous rend, vous voyez très bien à quel point il est fasciné, Eschnoz, par la fiction. Il parle c'est rare pour un romancier contemporain, il dit mon désir de fiction. Il a absolument besoin de raconter des histoires. Alors c'est ce principe d'enjambement d'un niveau à l'autre que Eschnoz va multiplier avec une virtuosité absolument confondante. Alors j'ai tenté d'en classer plusieurs types. Je vous donne la série. Je passe donc au en bas grande 2, figure du libre enjambement, métalepse et glissement analogue. Alors, le premier type, je l'ai intitulé enjambement de séquence, rebond, déplacement, contraste. Alors ça, c'est une signature Eschnoz. Personne d'autre, à ma connaissance, ne le fait dans le roman contemporain. Et qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que l'équivalent de l'attelage, non pas entre deux mots, mais entre deux paragraphes, deux chapitres, deux parties de roman, dont le principe de l'appariement dynamique et bizarre, vous le voyez, va à tous les niveaux. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples, je les lis, regardez. Le 39A. Justine regarde Paul, sourit sans lui tendre la main. « Je vais vous revoir, suggère-t-il. » adjure-t-il. Hélas, elle est très occupée en ce moment, le travail, les salons. Mais on se rappellera sûrement. Bientôt, elle disparaît. Il regarde son verre. C'était bref. On tourne la page. On commence le paragraphe suivant et Eschnoz écrit « C'était à peine plus long dans le même temps que la traversée de Paris par le Duc Pons, une quinzaine de stations, c'est pas etc. etc. » Autrement dit, il rebondit. Il fait un enjambement en paragraphe suivant sur les mêmes mots pour allier deux situations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Voilà. Eh bien, cette incongruité, il va la travailler tout le temps. Vous l'avez sous petit B, les grandes blondes. Vous l'avez sous le petit D et vous l'avez sous le petit E. Alors, regardez le petit E, c'est étonnant. C'est dans un roman qu'on n'a pas assez apprécié à sa juste valeur, qui est prodigieux. C'est au piano, hein. C'est pas le plus lu, mais je vous assure qu'il est d'une richesse exceptionnelle. Alors regardez, c'est la fin de la première partie, il vient de se faire zigouiller, ce pauvre Max, et une bête, un chien, est en train de le regarder mourir. Alors il est dit, si la nature songeuse de cette bête le prédispose à des visions, on pourrait être corrige, hein, peut-être va-t-elle voir maintenant, en complément de spectacle, l'âme de Max s'élever en douceur vers les terres accueillantes. Point. Vous tournez la page, non seulement vous changez de chapitre, mais évidemment, puisqu'il est mort, qu'il va aller, vous changez de partie. Rebond. Non, pas d'élévation, pas d'éther, pas d'histoire. Il semblait cependant qu'une fois mort, Max continua à ressentir les choses. Vous voyez le rebond sur l'articulation et le passage à une situation complètement différente. Voilà, premier enjambement qui signe l'œuvre d'Eschnoz, c'est ces phénomènes de saut absolument extraordinaire de chapitre. Deuxième métalepse. Alors, bon, ça, c'est. Bon, il y en a des exemples par milliers, c'est toujours très drôle. Il joue du saut, du contraste entre registres stylistiques, n'est-ce pas ? Alors, je vous ai mis deux exemples, mais bon. Vous avez. Le premier est très simple, c'est juste pour vous donner la clé. Rue Mogador et Dicta Carrier, et ensuite. Il rentre dans un taxi, et ensuite Boulevard Haussmann. C'est comme si c'était fait. dilotomédon. Alors vous passez d'un registre on ne peut plus trivial et familier à un registre extrêmement rare, automédon. Et en plus, bon, vous le verrez dans le dossier, il joue énormément comme Queneau et Chenoz de l'effet de comique attaché aux formes rares, aux mots rares, particulièrement les mots savants. Il adore ça, bien entendu. Et il les accouple avec des mots tout à fait simples, ce qui fait un effet de contraste. Et alors, un passage que j'aime par-dessus tout, c'est toujours au piano. Alors, vous allez voir l'effet, là aussi, d'enjambement. C'est le monument au Parc Monceau, à ce pauvre Frédéric Chopin. Alors, le monument dédié à Chopin, où l'on voit celui-ci sculpté en pleine action à son piano, martelant on ne sait quelle mazurka, pendant que l'inévitable jeune femme, assise au-dessous de l'instrument, les cheveux recouverts d'un voile et curieusement dotés de très grands pieds, à l'évidence très concentrés, se couvre les yeux d'une main sous l'emprise de l'extase. Putain, mais c'est pas vrai comme c'est beau cette musique. Ou de l'exaspération. Putain, mais c'est pas vrai comme j'en peux plus de ce mec. Voilà, alors ça c'est chose, mais on rit, on sourit ou on rit. Bon, et vous voyez le principe, c'est un principe d'enjambement d'un registre stylistique, alors du vulgaire. Là, pour le coup, au soutenu. Bon, troisième forme. J'espère que vous voyez bien la convergence. Le mécanisme est le même, hein, partout. 2, 2, 3, l'enjambement de repères temporels et modaux. Alors ça, je ne sais pas si vous lisez la revue de la BPI, hein, de Pompidou. J'ai fait un article sur le conditionnel dans la revue, sur Echnoz, vous l'avez peut-être regardé. Alors, j'ai un tout petit peu développé. C'est le même principe que je reprends ici, mais avec un autre exemple. Toujours au piano, regardez. Alors, j'ai appelé ça enjambement de repères temporels et modaux. Vous allez voir que ça va très loin. Ce n'est pas uniquement une affaire de chronologie. Hein. Je lis ceci. Il entendait, c'est toujours Max, il entendait Alice rentrer sans pour autant suspendre son travail. Attention au conditionnel. Il passerait la fin de l'après-midi à préciser quelques nuances des deux mouvements. Pressentiment suivi de mort de la sonate 1er octobre 1905 de Janáček. Alors c'est une amorce en parenthèse. Hein. Il va travailler la sonate qui comporte deux mouvements, pressentiment et mort. Et il va mourir à la fin de la partie, bien entendu. Donc, là, alors c'est gros, mais c'est ce qu'on appelle, vous le savez, la dénudation du procédé. Là, Eschnol s'amuse à pasticher les phénomènes d'amorce particulièrement aimés par le roman. Alors, je continue. Plus après quoi, il monterait trouver Alice affairée dans la cuisine. Puis ils dîneraient ensemble en se racontant plus ou moins leur journée. Puis ils passeraient un moment devant la télévision qui diffuserait ce soir-là « Artists and Models », film déjà vu par Marx qui, fatigué, en interrompit le déroulement peu après que Dean Martin eut tendu de crème solaire le dos et les épaules de Dorothy Malone en lui chantant « Innamorata ». Puis, chacun dans sa chambre, il partirait se coucher. Alors, vous avez vu ce qui se passe, c'est qu'il y a... Alors, ça porte un autre nom en rhétorique, ce qu'on appelle une énalage temporelle, c'est-à-dire c'est une substitution anormale d'une forme temporelle à une autre. On commence avec le conditionnel, puis d'un coup, on passe au passé simple et on revient au conditionnel. Du coup, on ne sait plus où on en est. Réfléchissez. Le premier conditionnel, vous savez que le conditionnel est largement polysémique, c'est une véritable anguille, n'est-ce pas ? Le premier conditionnel, comment l'interprète-t-on quand on lit dans le courant ? On l'interprète comme ce que Max est en train d'imaginer qu'il ferait. Autrement dit, si je puis dire, c'est un mode purement putatif. Ça ne réfère pas à ce qui existe, ça se réfère à ce qu'il pense qu'il va faire. Mais de ce mode putatif, vous passez quoi ? Vous pensez à un énoncé assertif, avec le passé simple, où on vous dit quelque chose. Il a effectivement interrompu l'émission. Résultat, quand on revient au conditionnel à la fin, il partirait se coucher. On s'aperçoit que ce conditionnel permet de relire les autres. Autant qu'un potentiel, il peut être interprété comme ce qu'on appelle un prospectif, hein, du type « il croisa la femme qui le tuerait 3 ans plus tard », on lit ça dans les romans, ou véritablement le conditionnel vous propose quelque chose qui va arriver sûr dans le futur. Alors résultat, si vous relisez le paragraphe, on est dans l'irréel ou dans le réel, dans la pensée ou dans les faits, c'est impossible. Autrement dit, que permet le conditionnel ? D'enjamber d'un mode à l'autre, du réel à l'irréel. On ne sait plus où est la frontière entre le fictif et ce qui est vraiment arrivé. C'est pareil, c'est un principe d'enjambement. Vous voyez, exactement le même mécanisme. sauf s'il y a des questions, je passe au suivant. L'enjambement des régimes discursifs. Alors ça, c'est ce qui est le moins propre à Echenoz. Tout le roman le fait. Le roman a libéré ce qu'on appelle les discours apportés. Autrement dit, le roman, le discours romanesque passe librement du discours direct à l'indirect libre pour revenir au direct, et sans marque différenciatrice. Alors, regardez ce que ça donne. Max se dirigea. Alors, ça fait penser à un sketch que vous connaissez peut-être de Allaire, vous savez. C'est la sonate au clair de lune. Il la joue depuis, pour la millième fois. Il commence de la 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 la. Et il se dit, alors, qu'est-ce que c'est embêtant, cette musique. Et vous allez voir, le Max a fait la même chose. Alors, quand on sait en plus que le Max a été probablement inspiré par Samson François, hein, ils sont tous les deux ivrognes et tout à fait névropathes. Quand on connaît Samson François, on a du mal à penser qu'il a pu dire une chose pareille. Alors, je vous lis le passage. Max se dirigeait en titubant et en suffoquant vers la 50 dedans. Alors, métaphore pour les touches du clavier. Le piano lui fait peur. Alors, il voit les touches comme des dents, n'est-ce pas, qui vont le... Belle métaphore. Il s'assit devant, le chef brandit sa baguette, le silence se fit aussitôt, et voilà, c'est parti, je n'en peux plus. On passe directement du récit au discours direct qui est enclavé, sans guillemets, à l'intérieur du propos. Ce n'est pas une vie, quoique n'exagérons pas, j'aurais pu encore maître et finir à Manille, et vendeur de cigarettes à l'unité, sireur à Bocota, plongeur à Deauville. Allons-y donc, puisqu'on est là, toujours le discours direct, premier mouvement. En plus, le mouvement s'appelle Maestoso, alors contraste avec la situation, évidemment. Bon. Du concerto numéro 2 en fa mineur, plus 21, etc. Suite. Alors, voilà, j'arrive là au dernier point. Là, alors, on va retrouver vraiment une signature prodigieuse d'Echenoz. C'est les enjambements, ai-je marqué, de la fiction à la diction. Alors, il y en a deux types. Le premier, c'est le 5A. Je l'ai intitulé « La fiction dans la langue et la langue dans la fiction ». C'est confondant de virtuosité, si on lit bien le texte de près. Il y a des trouvailles prodigieuses. Alors, j'avais choisi quelques-unes. Qu'est-ce que j'entends par là? Regardez. Je lis à la suite le petit A, le petit B et le petit C. Alors, Donatienne, la secrétaire des Grandes Blondes, 95, 60, 93, comme les messieurs et les dames l'ont compris, ce sont des mensurations, bien entendu, parfaites, comme vous le voyez. Alors, en toute saison, Donatienne se distingue par le port de vêtements surnaturellement courts et miraculeusement décolletés, si courts et décolletés parfois qu'entre... Alors, on attendait autre chose. Entre ces adjectifs, ne demeure presque plus rien de vrai tissu. Ce qu'elle portait se révéla plus exigu, un peu plus loin, que la veille encore, si court et décolleté, que ses adjectifs tendaient cette fois à se confondre, envisager de s'installer et vivre à deux dans la même entrée du premier dictionnaire venu. C'est prodigieux. Alors vous voyez, c'est vraiment très drôle, c'est très cocasse. Mais si vous y pensez bien, c'est très sérieux. Parce que finalement, c'est une manière de fictionnaliser les mots de la langue. Ils deviennent des partenaires des personnages, hein, et ils sont intégrés à l'univers de fiction. C'est féerique, hein, c'est extraordinaire. Au-delà du simple humour, ça va très 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 loin. Deuxième exemple. Alors, Charles sonna à la porte. Ce serait un frais sexagénaire avec un accent russe, ainsi qu'une petite barbe pointue bien entretenue, bien droite dans l'axe d'une étroite cravate ivoire, qui mit tout ce temps à venir ouvrir. Charles, modula-t-il, roulant hospitalièrement l'air médian. Boris, dit Charles. Alors, tout ce temps, c'est lequel? C'est le temps qu'il a fallu pour écrire la phrase. Autrement dit, la fiction enjambe et fait référence au développé de la diction. Oui, même chose. C'est une passerelle qui crie pas gare, mais qui est là. Troisième exemple. Alors ça, il est dédié plus particulièrement à Isabelle Bastian, qui a eu le flair de repérer la chose. C'est, à mon avis, c'est une des plus belles trouvailles d'Echenoz. Bon. Vous savez qu'il y a un chapitre dans Au piano qui se limite à une phrase. Un peu comme dans Apollinaire, vous avez le poème et l'unique cordeau des trompettes marines. Et bien là, il y a une phrase. Et cette phrase, alors je vais la resituer. Vous avez le chapitre 17, fin du chapitre 17, et c'est ainsi que Max Delmar, un beau soir, posséderait, on ne sait pas encore si c'est un prospectif ou pas, posséderait Doris Day. Rien que ça. On tourne la page, intégralité du chapitre 18, phrase nominale, hein, oui, très évocatoire, « Nuit d'amour » avec Doris Day. On tourne la page et vous avez, début du chapitre 19, le lendemain matin, Max s'éveilla très tard et tout seul dans son lit. Alors il se demande si s'il a rêvé ou pas. Alors la pudeur m'interdit de citer la suite et il remarque des choses qui lui font penser qu'elle a bien été là. On est sauvé. Regardez. « Nuit d'amour » avec Doris Day. La nuit se déroule du soir au matin. Comment on dit matin en anglais? Comment on dit jour, lever du jour? On dit day. Autrement dit, Doris Day, c'est un calembour. C'est un calembour. Et la nuit d'amour dure ce que dure la phrase. Et elle est limitée non pas par la fiction qui vous donne les événements, mais par les mots qui sont employés. Autrement dit, une fois encore, il n'y a plus de distance entre la fiction et la diction. Ce sont les mots mêmes qui sont les acteurs de la fiction, puisque D est à la fois le jour et le nom de l'actrice. Oui, donc la confusion est totale. Alors, je passe au dernier paragraphe, après je m'arrête. Alors, ça, c'est plus connu, mais il faut en parler un petit peu. Des acteurs de l'énonciation aux acteurs de l'énoncé, et inversement, c'est la forme la plus connue de la métalepse. Elle est affichée dans la dernière partie de l'exposition. On a mis notamment beaucoup d'exemples d'Envoyé spécial, n'est-ce pas, qui est le roman le plus prolifique à la matière. Alors, je vous prends l'exemple 44, 45 et 46. Dans Envoyé spécial, nous avions même envisagé d'approfondir les sujets que cette conversation aborde et nous étions sur le point de le faire, mais voici que tinte à la porte à l'intervalle de tierce majeure descendante le double gong de la sonnette. Ce qui veut dire que, évidemment, l'écrivain est soumis à des événements qui lui échappent complètement. Ce qui, vous le voyez, est une manière de voir autrement la fiction. Ça ne tue pas la fiction, ça la déréalise, mais ça permet de la voir autrement. En 45, posant régulièrement son regard, alors attention, posant régulièrement son regard sur le pendentif en forme de flèche, c'est Ferrer dans Je m'en vais, pour se revigorer, mais sans décidément parvenir, comme quand elle venait le voir, à ce que naisse et durcisse en lui, c'est ce qu'on appelle une litote, quelques convoitises. Et alors, la parenthèse du narrateur qui dit « Et cela, je me l'explique mal. Moi qui suis là pour témoigner qu'Hélène est hautement désirable. » Vous voyez ce qu'il faut lire à travers témoigner. C'est que lui, il est capable d'avoir ce que vous imaginez et pas son personnage. Autrement dit, il est totalement assimilé et de manière loufoque aux éléments de la fiction. C'est un humour extraordinaire. Oui, oui, oh ben oui, il y a quelques fautes de frappe. Hein. Je n'ai pas tout corrigé. Voilà. Alors, enfin, en 46, alors là, j'ai croisé les deux. Vous allez avoir les deux procédés, la métalepse de l'énoncé à l'énonciation et l'articulation en rebond des chapitres qu'on a vus tout à l'heure. Parce qu'évidemment, les procédés sont pile. Je n'ai pas besoin de vous dire que je les distingue, mais ils se cumulent. Alors, c'est dans le piano, 46. Eh bien, voilà, dit-il, je vous présente ma sœur, c'est Max qui parle, je ne crois pas que vous vous connaissiez. Tournez la page, chapitre suivant. Vous, je vous connais par contre. Je vous vois d'ici. Vous imaginez que Marx était encore un de ces hommes à femmes, un de ces bons vieux séducteurs, bien sympathiques, mais un peu lassants. Avec Alice, puis Rose, et maintenant la femme au chien, ces histoires vous laissaient supposer un profil d'homme couvert d'aventures amoureuses. Vous trouviez ce profil convenu, vous n'aviez pas tort. Eh bien, pas du tout. La preuve, c'est que c'est sa femme. L'une est donc sa sœur, l'autre en souvenir, la troisième une apparition, et c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Vous aviez tort de vous inquiéter. Reprenons. Autrement dit, c'est une parenthèse, vous le voyez, du narrateur qui s'adresse directement au lecteur. Parce que même le lecteur devient un acteur qui est assimilé à la scène de la fiction. Oui. Donc ce phénomène d'enjambement est quand même très spectaculaire. C'est sans doute là que la vérité des Schnauss se voit le plus. Et ça remonte à très loin, puisque même dans le méridien de Greenwich, hein, sous forme peut-être un petit peu plus lourde, hein, on en trouve déjà les exemples. Et il n'a cessé d'en raffiner l'expression. Hein. Voilà, donc je suis obligé de m'arrêter là. J'espère que vous pourrez éventuellement poursuivre la lecture du dossier. Je vous ai mis tout à fait en haut mon adresse mail. N'hésitez pas, si vous avez des questions, plus particulièrement proche d'un travail que vous feriez, ou à m'écrire, je promets, je vous réponds. Bon, je ne réponds pas aux insultes, mais bon, aux questions, je veux bien répondre. Voilà, donc alors des questions tout de suite, il va y en avoir. Donc Caroline va vous faire passer le micro. S'il y a des questions, allez-y, n'hésitez pas. Le mien est branché et je le garde parce que. Ah oui, j'ai couru la poste.
Hop.
Une, même plusieurs.
Non, non, c'est une toute petite question. Moi, je peux la poser en parlant très fort. Parce il faut enregistrer. Ah oui, d'accord, pardon.
Si vous voulez passer à la postérité, il faut que vous ayez le micro.
Voilà. Moi, quand je lis Echnoz, je vais le dire de manière très populaire, je prends un pied incroyable.
Oui.
Et là, on a parlé de choses extrêmement érudites. Et je me demande vous pouvez peut-être l'expliquer, ou lui l'a peut-être expliqué dans un entretien que je n'aurais pas entendu, comment ça se fait que c'est tellement digeste, que cette accumulation de recettes magnifiques et virtuoses passe comme une lettre à la poste pour le lecteur. Qu'est-ce qui fait que c'est si fluide ?
Je pense que c'est une des propriétés de l'humour. Par définition, l'humour ne s'attarde pas, et c'est d'ailleurs aussi propre à l'exubérance. C'est si fluide, il y a deux raisons, c'est qu'obligatoirement, ça passe et on passe à autre chose. Autrement dit, le rythme jamais ne s'attarde et ne ralentit. Et deuxièmement, n'oubliez pas que ce sont deux approches différentes. L'écrivain lui-même, quand il écrit ce type de choses, exploite un don. Et par définition, un don, c'est ce qui ne se réfléchit pas. Mais un don va tout de suite à l'infini, pour un écrivain, à l'infini richesse des possibilités de la langue. C'est ça qui fait les grands écrivains. Nous, modestes tâcherons par derrière, tout ce que nous pouvons faire, c'est rendre le texte, c'est notre travail particulièrement stylistique, c'est de rendre le texte intelligent, avec des risques de se tromper, bien entendu, d'être un peu lourd, inévitablement. Oui, mais c'est finalement, bon, il y a un très grand philosophe analyticien américain, s'appelle Nelson Goodman, qui a fait un très bel article sur le style. Et alors, on lui avait reproché justement le caractère très lourd de l'analyse. Eh bien, il dit, je l'assume et je l'accepte, parce que mon analyse a les limites de la raison. Mais sans cette approche rationnelle, qui me permet quand même de comprendre un maximum de choses, ma lecture ne serait pas aussi riche. Voilà. Mais il faut bien comprendre que les deux démarches ne sont pas symétriques. Vous avez le don d'un côté, et vous avez l'intelligence analytique de l'autre, soutenue par l'intuition. Mais il faut impérativement croire à sa fonction de la lecture. Sinon, bon, ça ne sert plus à rien. Prendre son pied, oui, mais quand on aime la lecture, on le prend avec tous les auteurs possibles. Mais Dostoïevski, c'est pourtant moins drôle. Voilà. Mais après, il y a une nourriture peut-être plus substantielle à développer. C'est là qu'on intervient, que nous intervenons. Bon, vous pouvez en parler aussi entre amis et faire découvrir à un ami une richesse que vous avez découverte. Ça apporte à la lecture. Je ne sais pas si j'ai répondu. Madame, le micro. Caroline était dans l'extase, comme la jeune fille de Chopin.
Je peux t'excuser ma voix un peu rogue. D'accord. C'est sur la question du don. Est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agisse bien d'un don ? Parce qu'on sent tellement de travail.
Ah, attendez.
Alors, pour moi, le don, c'est quelque chose qu'on est avec. Bon. Oui. Mais là, on est loin de,
je vous assure,
on est loin de l'inspiration. Là.
Je vous assure que des gens qui ont travaillé, j'en connais. Mais leurs œuvres... ce qui fait la différence, c'est que vous avez d'emblée, effectivement, une capacité qui se travaille. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'œuvre d'Echnoz évolue, et par certains côtés, même si les premiers romans sont très bons, s'améliore. Donc le travail, l'efficacité de l'écriture, incontestablement. Mais il y a dès le départ une part de données, une part de dons qui est irremplaçable. Bon, ça, Là, de ce point de vue-là, on est complètement inégaux. Hein. Ça, alors là, oui. C'est impossible autrement. Hein. C'est impossible autrement. Voilà. D'autres questions ? Y compris sur le reste du dossier. Hein. C'est...
Oui, pardon. Moi, j'avais vu... Enfin, vous avez insisté encore ce soir sur la figure du 2, qui est parfaitement compréhensible. Mais vous avez dit, il y a un roman dont on ne parle jamais, et que personne n'a apprécié au piano. Je pense que quand même beaucoup de gens l'ont apprécié. Mais il y a un autre roman qui s'appelle Nous Trois.
Oui.
Vous parliez de Métalepse. Oui. Et quelle meilleure figure de la Métalepse que Nous Trois ? Parce que qui est le troisième ?
Oui.
Dans Nous Trois, mais pardon, mais c'est non, mais donc c'est... on ne sait pas vraiment si c'est le narrateur, mais tout, mais oui. Là, et Schnouz parvient à un truc incroyable et qui explique le titre. Si vous pouvez nous en parler un petit peu. Non.
Alors, je n'ai pas mis d'exemple, mais là, il faudrait avoir des exemples sous les yeux. Il y a effectivement un travail sur l'ambiguïté des pronoms et des références aux prénoms des pronoms dans Nous Trois qui est exceptionnel, incontestablement. Je ne l'ai pas mis parce que vous avez vu le nombre d'exemples. Hein, donc je ne pouvais pas en rajouter en plus. Donc, mais alors attention, parce que je parlais du 2. Il y a un jeu sur les chiffres. Tous les chiffres chez Schnouz, qui est très important. Vous vous rappelez dans Des éclairs, le 3, hein, Grégor qui s'entoure de multiples de 3. Et même les brevets qu'il dépose sont des multiples de 3. C'est les chiffres, etc., etc. Cela dit, le 2 est le plus constant, puisqu'il n'est pas uniquement présent sous forme de chiffres. Et je vous rappelle que dans Nous Trois, il y a une mise en abîme du roman par quelqu'un qui imagine un scénario de film et qui dit, alors c'est une autre figure qu'on appelle l'allusion, il prend la fin du voyage de Baudelaire et le titre du film c'est « Enfer ou ciel, qu'importe ». Alors je vous rappelle que dans Nous Trois, il y a l'enfer, parce qu'il y a un tremblement de terre à Marseille, et il y a le ciel, puisqu'il y a un voyage en navette spatiale. Donc ça fait deux, et le roman est fait comme la Creuse et la Corée dans Envoyé spécial, le roman est fait de l'accouplement de deux choses complètement opposées. Le 2, croyez-moi, on n'en sort pas. On n'en sort pas.
On
n'en
sort pas. On trouve toujours la grille.
Non. On n'est pas fixé sur l'interprétation. On lit et on relit et on re-relit. Et il y a nécessairement des phénomènes qui vous paraissent saillants. Voilà. Donc là...
Non, excusez-moi, parce qu'en fait, c'est enregistré.
Non mais c'est extrêmement intéressant, mais on ne va pas repartir sur d'ailleurs ce qui n'est pas du tout le cas des Schnouz sur la gnose, sur, bien que ça rime Schnouz et gnose, mais
ah bon. Oui.
De même que l'universitaire qui intervenait l'autre jour disait que l'anagramme de Ravel c'était
lavé,
voilà, mais c'est aussi larve.
Oui. Voilà. Oui.
Bon, on peut toujours.
Non, il y a une grosse différence. Je vous concède que lavé pour Ravel est un peu épisodique, encore que. N'oubliez pas que ça commence par une baignoire et qu'il y a une volonté d'ablution et de purification qui n'est peut-être pas. Là. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la saillance, la prégnance et la durée du 2, qui est un patron infiniment plus large que l'anagramme de Ravel. Hein. Mais c'était pas inintéressant, demeurant. Tout à fait d'accord. Bon, ça, alors... D'autres questions ? Pardon ? C'est quoi le crapaud baveux ? Ah, ça, j'en sais rien. Faudra demander à Schnouz. D'autres questions ? Oui.
Bonsoir. J'aurais voulu, si vous pouviez, que vous nous parliez un petit peu du pronom « on » qui est... mis par Schnouz dans ses textes, il me semble, uniquement pour, par sa mouvance, uniquement pour perdre le lecteur.
Oui, pour perdre le lecteur, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête, ce que j'avais noté, mais ça ne lui est pas propre. Hein. C'est quelque chose qui a été souvent étudié dans le discours romanesque, le « on », qui est un pronom collectif, indéfini est une manière souvent d'associer, bien entendu, le lecteur, dont les partenaires de la diction du roman, à la fiction. Ça, incontestablement. On joue de son ambiguïté référentielle pour assimiler le lecteur. Pour le perdre, pas nécessairement. Mais c'est une manière de l'impliquer. Ça, oui. Tout à fait.
Je sais que les questions coûtent, mais peut-être tout de même en profiter. Ah.
Merci. Et je pense que vous avez eu l'occasion d'échanger avec Jean Echenoz au sujet de toutes ces analyses très intéressantes de son œuvre. Mais lui, en tant qu'auteur, on parlait d'un don tout à l'heure. Que pense-t-il de ces analyses a posteriori, je dirais un petit peu techniques ? Par rapport au don, tout ce qu'on décortique dans ces paragraphes, dans ces phrases, le choix du vocabulaire, comment réagit-il ?
Je vais répondre directement en vous rappelant ce qui est écrit dans Jérôme Blindon. Jérôme Blindon lui a dit un jour « Je vous déconseille de suivre les colloques universitaires. » Je pense vous avoir répondu. Et j'ajouterai tant mieux, parce que bon, là, je vous renvoie tout le temps à un ouvrage important qui est le Contre Sainte-Beuve de Proust. On sait depuis le Contre Sainte-Beuve qu'un auteur, il y en a deux. Il y a la personne qui fait les livres et il y a la personne que les livres ont faite. La personne qui m'intéresse, c'est pas celle qui fait les livres, c'est celle que les livres ont faite. Autrement dit, celle qui se confond avec l'objet œuvre. Le reste ne m'intéresse pas. Le reste ne m'intéresse pas parce que la personne, elle est comme une autre, avec un don supérieur peut-être, mais comme le dit quelque part, je crois que c'est Malraux ou l'équivalent, c'est un misérable petit tas de secrets, d'envie, comme nous tous, n'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui est nécessairement beaucoup plus décevant que ne l'est le prodige de son œuvre, incontestablement. Voilà. Donc je vous ai répondu, bon, ça faisait partie de mon cahier des charges, j'ai interrogé Echenoz, je me suis bien gardé de l'interroger sur des éléments personnels, je l'ai interrogé uniquement sur son œuvre. Voilà. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est, contrairement à d'autres romanciers, il ne s'en cache pas d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est très secret, extrêmement rétractile, et ça se comprend, qui a peur d'être enfermé dans une image que peut donner de lui la critique. J'ai essayé de lui dire, sans l'avoir convaincu sans doute, hein, que cette image dépasse une vérité définitive. C'est un éclairage donné sur l'œuvre qui en accepte bien d'autres. Et c'est une manière d'essayer de démontrer la richesse de l'œuvre. Mais il est extrêmement secret de ce point de vue-là, hein, incontestablement. C'est quelqu'un qui ne se livre pas. Hein, voilà.
Je pose une question. Merci beaucoup, monsieur le professeur.
Oui.
Alors, j'ai une toute petite question à vous poser.
Oui.
Est-ce que vous avez étudié par rapport aux traductions qui ont été faites ? Est-ce que les traductions ont été bien faites ou pas ?
Alors, je ne les connais pas toutes et puis je ne suis que modérément polyglotte. Vous savez que l'œuvre a été traduite en je ne sais combien de langues. J'en ai parlé avec Echenoz lui-même. Pour les langues qu'il pratique, il m'a dit que les traductions étaient très bonnes. J'ajoute que, hormis certains calembours, bon, il y a des calembours facilement traduisibles. Quand vous lisez des éclairs qu'au début de la deuxième ligne, vous lisez que chacun préfère être au courant de sa naissance, le mot courant, évidemment, des éclairs, ça fait tilt. Bon, ça, c'est facile à traduire. Il y a des calembours qui sont plus difficiles. Mais hormis ces cas d'à peu près de calembours, la prose est quand même relativement plus facile à traduire que de l'est, par exemple, de la poésie. Donc il m'a dit, notamment pour l'italien, pour l'allemand, que son œuvre était très bien traduite et très lue. Hein, c'est un auteur qui est... Et cette séduction, justement, immédiate, pense en pied, comme vous disiez, hein, alors que bien d'œuvres contemporaines sont quand même tristes ou un peu déprimantes, explique son succès. Mais je défends, je m'élève contre l'idée que c'est un auteur facile. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'un mot comme décortiquer me gêne, parce que je ne décortique pas. J'essaie de voir ce qui est, parce qu'il y a quelque chose derrière. Et le parti pris de l'exposition a été de montrer que Échenoz était un peu autre chose que l'effervescence plaisante de la première lecture. C'est un univers riche, très complexe. Hein, celui des trois dernières biographies, enfin, que veut dire exactement cette volonté de se diminuer, hein, de jouer les modestes, qu'est-ce que c'est que ce sentiment du vide, de l'échec? C'est une œuvre plombée et noire par bien des aspects, hein. Et bon, le côté plaisant est une manière, on l'a dit dans l'exposition, de contrebalancer une humeur qui est noire, hein. C'est un univers très déprimé, très dépressif, hein. Il y a un mot qu'on voit souvent revenir, il est employé pour Zatopek, il est employé pour Ravel, il est employé pour Tesla, dans les trois, on parle d'acédie. Et l'acédie, vous savez, c'est l'abandon, l'indifférence, la négligence, le laisser-aller. Et ce sont des gens qui sont profondément hantés par la mort, c'est évident, bon, par le temps et par la mort, hein. Donc c'est un univers très, très sombre. C'est pour ça qu'il faut aller voir au-delà des premières lignes, enfin, de l'effervescence. Hein, bon, hein. Vous savez, excusez-moi, un exemple. Hein, ce que j'ai donné, c'est à propos des figures de construction. Regardez, excusez-moi, je vais vite le retrouver. Regardez, page 1, sous 1 de 2, l'exemple 7B. 7B. On a l'impression d'une plaisanterie. C'est dans Les Grandes Blondes. Il est dit ceci. Un petit balcon par-dessus le vide supportait une chaise longue et la baie donnait sur la baie. C'est gloire quand elle est à Sydney, en Australie. Alors, la baie donnée sur la baie, c'est ce qu'on appelle une antanaclase. C'est le même mot dans deux sens différents. Mais réfléchissez, la baie, c'est une ouverture. Donc, ça donne sur autre chose. Que vous dit la figure? La figure vous dit que le même ne donne pas sur l'autre, mais sur le même. La baie donne sur la baie. C'est quoi l'antanaclase? À ce moment-là, c'est une figure de l'ennui. Et vous savez très bien ce que fait Gloire quand elle s'ennuie. Elle trucide les mecs. Hein, et elle les balance dans le vide. Regardez le début de la phrase. Il est dit un petit balcon par-dessus le vide. On se dit, aïe, 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 il y en a encore un qui va faire les frais. Non, mais pour vous montrer que derrière l'apparence drôle, il y a du tragique, il y a du drame. Ça, c'est Échenoz. Ce n'est pas uniquement le jeu sur les mots. C'est tout ce que les figure. Et elle figure plus qu'elle-même.
Gérard, en fait, on a un tel plaisir à t'entendre que peut-être on peut t'entendre encore plus. C'est moi, je bats ma coulpe. C'est moi qui avais demandé à Gérard de raccourcir un peu sa conférence qui devait faire 2 heures pour vous laisser les places de questions. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un tel plaisir de l'entendre que peut-être encore un morceau pour nous, quelques exemples, nous serions ravis.
Non, parce que ça va tomber comme un cheveu sur la soupe. Je ne peux pas... Donc si vraiment vous voyez un exemple qui vous intrigue, mais il faudrait que pour ça que...
Alors, on a des choses à dire, monsieur.
Oui, plutôt.
Bonsoir. Non, en fait, non, j'ai pas grand-chose à dire, mais il y a quand même un livre d'Échenoz qui m'a toujours intrigué, dont on parle pas beaucoup. Il est tout petit.
Non.
C'est l'occupation des sols. Alors là, ce livre-là... Je ne sais pas pourquoi, je l'ai relu récemment, il m'intrigue,
oui.
Et j'ai l'impression que c'est le livre où il s'est le plus livré. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne connais pas du tout sa vie. Il est complètement différent des autres, pas seulement par sa brièveté,
oui.
Mais par une sorte d'immédiateté. Bon, il y a toujours la figure du deux, le père et son fils,
bien
on est
sûr,
d'accord.
Toujours.
Mais cette, je crois que c'est la mère qui est
qui meurt,
en peinture sur un immeuble
sur
qui
un
va
mur,
être couvert.
Tout à fait.
Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce livre qui est si particulier, à mon avis, dans l'œuvre d'Échenoz?
Tout à fait, très difficile. Alors, bon, il y a plusieurs choses à dire. Après, il ne faudra pas me reprocher de projeter une interprétation, hein, parce que, bon... Bon, il y a deux choses. C'est que il l'a reconnu lui-même. Hein. Vous avez vu dans l'exposition la complication des premières œuvres. Il y a toujours chez Échenoz le réflexe qui consiste à ne pas se laisser enfermer dans un modèle. Donc, après le méridien de Greenwich et après Cherokee, eh bien, et ça lui a demandé autant de travail que le reste, hein, parce qu'il a pris du temps. Il fait cette œuvre qui est vraiment en rupture totale, au moins superficiellement, avec ce qu'il avait fait dans la manière. Il y a cette première chose. Et la deuxième, je crois que tout romancier est intrigué par la mimésis. On parlait de la motivation tout à l'heure. Et tout romancier est intrigué par le moyen de rendre présent l'univers de la fiction qu'il a. Et alors, justement, il y a une réflexion dans l'occupation des sols sur l'hologramme, le mot y est, sur la façon de pouvoir, par la langue, hein, faire revivre quelque chose qui est fictionnel, qui est en dehors, qui n'est pas là. Et vous savez ce qu'ils font, et quelque part c'est une parabole un peu tragique du travail du romancier, ils vont chercher à travers les murs, en perçant, l'image, la fameuse image de la mer qui toujours leur échappe. Bien, quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu une parabole du désir et de la difficulté de la fiction. Je pense qu'il y a de ça. Pas que ça, mais personnellement, je l'y vois, je l'y lis. Je l'y lirai volontiers. Mais c'est un texte très intriguant, incontestablement. Très, 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 très certainement. Et puis bon, énigmatique, alors que les premiers livres n'étaient pas énigmatiques. Ils étaient touffus, ils étaient riches, mais pas énigmatiques.
Mais non, c'est pas si énigmatique que ça. Le mur se construit devant le portrait de la mère disparue, qui est la seule trace. Pardon. Qui est la seule trace et la seule image qui disparaît au fur et à mesure. Et donc, de même qu'un, je sais pas, pour moi, de même qu'un, je suis pas romancier, mais un récit se ferme, c'est pareil que l'image disparaît alors que c'est leur seul souvenir. Enfin voilà, on peut imaginer des choses comme ça. Je voulais pas parler de l'occupation des sols, qui est on peut penser à la note sol, etc. Je sais pas. Eschnoz ne fait pas beaucoup de jeux de mots, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est par contre son travail sur les noms des personnages.
Oui.
Par exemple, Personetas. Enfin, ils ont tous des noms complètement dingues. Et j'ai remarqué, grâce, et c'est tout ce que je voulais dire, grâce à votre exposition ici, que dans Cherokee, la première évocation de Jenny Veltman, elle ne s'appelait pas Jenny Veltman, mais Jenny Swartzman.
Oui.
C'est ce qui est marqué dans
tout à fait.
Voilà. Merci, c'est barré, etc. Ensuite, et maintenant, on tombe sur Semaine de Suzanne. Livre que j'ai découvert aussi grâce à cette exposition, ouvrage dans lequel Eschnoz écrit le chapitre 3. Cherokee, c'est 83.
Oui.
Semaine de Suzanne, c'est 89 ou 91, je ne sais plus.
89, je crois.
Voilà. Et là, on lit Lulu Swartzman.
Oui,
donc, il tient à ces noms.
Oui.
Il est construit à tel point. Alors, j'ignore complètement pourquoi, et ce n'est pas vous qui pourrez me répondre.
Non.
Pourquoi est-ce qu'il a transformé Swartzman en Veltman? Donc, c'est le perroquet qui arrive. Swartzman, ça fait penser à Schwarzman, à homme noir. Veltman, homme du monde.
Oui,
en tout cas, il a vraiment, dans les manuscrits, on voit très bien, dans les tapuscrits, on voit très bien qu'il a rayé. Veltman est marqué. Donc je trouve ça intéressant.
Ah, tout à fait. Alors,
et je vous en remercie.
On le voit avec les manuscrits. Ce qui est très effectivement, c'est très important. Ce qu'on appelle l'onomastique, donc les noms de personnages, est absolument capital chez lui. Très, très, très important. Et le symbolisme est souvent, parfois un peu apparent, mais d'autres fois bien, bien caché. On peut s'interroger. Là, c'est comme le personnage qui s'appelle Gibbs. Dans les manuscrits, on s'appelle. Alors là, on ne peut plus douter. Après, il s'appelait Colgate. Alors Colgate, c'est un peu gros. Gibbs, on pense à Souris et Gibbs, on n'en est pas sûr. En fait, la variante vous montre que c'est bien le dentifrice. Il y a des noms. L'onomastique est très très riche. J'allais pas parler, mais et en général, par symbolisme, par métaphore. Bon. Même les noms vrais, vous avez vu pour Zatopek. Ça parle pour lui, c'est un moteur.
Zatopek, il dit son nom. Par contre,
non, mais le, Ah non, non, il l'a changé. Non, mais Zatopek, il en livre le symbolisme pratiquement. Donc, oui, pile huile. D'autres questions?
Peut-être quand même une dernière question avant de se séparer, avant de remercier Gérard. Bien, écoute, je pense que tu as ébloui en fait tout le monde.
C'est moi qui suis ébloui, celui-là.
Bon, si vraiment il n'y a pas de questions, il me revient de remercier chaleureusement Gérard Berthaumieux.
Merci à vous,
pour cette magnifique conférence. J'en profite pour vous dire qu'elle a été enregistrée, puisque on était assez cerbère sur la question des micros. Donc je remercie nos régisseurs. Vous retrouverez l'enregistrement de cette conférence de Gérard sur la web radio. Je vous rappelle aussi que les autres tables rondes, donc la rencontre entre Jean Echenoz et Giorgio Pinotti, sont traducteurs et éditeurs italiens, qui étaient modérés par Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, où il a été question de traduction, puisque des questions ont porté sur la traduction. Tout ceci, donc cette rencontre Echenoz-Pinotti, l'après-midi d'études qui était aussi sous la houlette de Gérard, tout ceci a été capté, vous le retrouverez dans la web TV, web radio de la BPI. Donc, grâce à nos techniciens, que vous dire de courir à l'exposition si vous ne l'avez pas vue avant le 5 mars. Et une dernière fois, de remercier chaleureusement Gérard pour cette magnifique, magnifique conférence. Merci Gérard. Merci.